Le journal Anthony Montandon, bonsoir.
Bonsoir, un ouvrage retrace l'histoire du piano à Bienne et plus particulièrement d'une fabrique d'où sont sortis 50 000 instruments durant 100 ans. L'entreprise Bourgeret Jacobi est au cœur du dernier ouvrage en date de la revue Intervalle, le détail en ouverture de ce journal. Le mois d'octobre est un mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et une Célandaise a décidé, elle, de permettre à tout le monde de trouver les ressources nécessaires pour faire face à cette maladie. Maureen Bernard a lancé pour ça un site internet, elle était l'invitée ce matin de la matinale. Non, les billets nominatifs ne permettent pas de régler les problèmes de violence dans les stades. La Swiss Football League l'a répété aujourd'hui alors que les autorités cantonales demandent l'introduction de cette mesure. La SFL s'appuie sur un bon exemple en Suisse romande pour justifier sa position. La météo de demain, ça commencera comme les autres jours sous la grisaille. Les nuages devraient se dissiper au fil des heures pour laisser place à un temps assez ensoleillé. Les températures grimperont au maximum jusqu'à 20 degrés. Remonter le temps et retracer l'histoire de la fabrique de piano biennoise Bourgeret Jacobi, c'est l'objectif que s'est fixé Ulrich Kastelberg, descendant de la famille Jacobi. Il retrace dans le nouveau numéro de la revue culturelle du Jura bernois et de Bienne Intervalle l'histoire du plus grand fabricant suisse de piano. Le biennois a traduit et réécrit les mémoires trouvées par hasard de son arrière-grand-père Hans-Reis Jacobi, une manière de rendre hommage à sa famille et à l'ancienne fabrique de piano qui fait partie du patrimoine de la région. Les détails d'Ulrich Kastelberg.
La première chose était que j'ai trouvé les mémoires de mon arrière-grand-père, comme il décrit ses voyages, son apprentissage, aussi les entourages de la société à cette époque. Ça m'a intéressé.
Finalement, vous êtes tombé sur un véritable trésor?
Ça, on peut dire. Quand j'ai lu ses mémoires, j'avais l'impression d'avoir un livre de Gottfried Keller dans mes mains. C'est tellement bien écrit, c'est fantastique à lire. C'est pour ça que j'ai mis dans mon bouquin en allemand, j'ai copié ses mémoires.
La fabrique Bourgeret Jacobi a été contrainte de fermer ses portes en 1985. Elle avait alors produit 50 000 instruments. Le nouveau musée Bienne consacre d'ailleurs une exposition à l'ancienne entreprise jusqu'au 5 janvier. Dominique Baumann, responsable du numéro 130 d'Intervalle, nous en parle.
C'est un vrai sujet biennois, c'est une entreprise qui a existé pendant plus de 100 ans à Bienne, qui a commencé ici au Pascard pour après se déplacer au cœur de Madrecht et qui a donc sculpté un peu ce quartier par ses bâtiments, par ses extensions. Et donc de par son aire géographique, c'est typiquement une entreprise biennoise et un sujet biennois. Après, on peut aussi dire que ça va quand même au-delà des frontières biennoises parce que c'est une entreprise qui a énormément produit, près de 50 000 instruments de musique. Qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui sur le marché d'occasion. Et donc, c'est des pianos qui étaient connus et qui sont encore connus actuellement dans toute la Suisse.
Un sujet de Manon Becker, à noter qu'Intervalle organise un vernissage pour fêter la sortie du numéro demain à 18h au Nouveau Musée Bienne. À cette occasion, le film muet « Fabrication d'un piano Bourgeret Jacobi de 1929 » sera projeté. Et c'est la fin d'une ère aussi à Bienne, mais pour la vie nocturne qui va perdre l'un de ses lieux emblématiques, le Duo Club. Le gérant Sacha D'Antonio a annoncé hier que le club situé à la rue centrale 54 fermerait ses portes à la fin de cette année. Tout ne peut pas être mis sur la pandémie de Covid-19. La situation a commencé à se dégrader bien avant, comme l'explique Sacha D'Antonio, DJ et gérant au Duo Club.
Je vois un peu le développement dans tout domaine, développement musical, développement aussi des habitudes, etc. Et puis on a remarqué qu'il y a plein de choses qui ont changé. La technologie fait aussi qu'on a peut-être aussi d'autres outils ou d'autres possibilités. On ressent tout ça gentiment sur les chiffres, sur nos visiteurs, ce qui finalement, avant la pandémie, nous a aussi amené à restructurer déjà bien avant. Ensuite, la pandémie a mis une pause incroyable et puis un choc supplémentaire, clairement. Je pense que la pandémie a accentué certaines habitudes et a accéléré peut-être aussi cette évolution. Mais c'est bien une évolution qu'avec cette société qui aujourd'hui a moyen, justement aussi avec les possibilités sur le Natel, avec de tout commander à tout moment, d'avoir des accessibilités partout. Je pense que ça a une grande influence sur le mode de consommation et puis ça, on le ressent fortement. Heureusement, il n'y a pas tout qui ne fonctionne plus, donc on a des formats qui fonctionnent très bien. On a des groupes de clientèle, des tranches d'âge qui sont même en croissance, qui aiment bien ce qu'on leur propose. Et puis, il y a peut-être aussi le côté des jeunes qui ont peut-être une autre orientation, viennent, mais moins souvent. viennent plus tard ou pour une durée plus courte, consomment moins. Donc ça, c'est tous des aspects de phénomènes de société qui sont absolument justifiés et puis OK. Et puis suite à ça, c'est nous qui devons nous adapter. Malheureusement, ma grande structure m'oblige à prendre des précautions.
Sacha D'Antonio, gérant du Duo Club, répondait à Donna Gallagher du Journal du Jura. Il a par ailleurs assuré que les discos pour enfants et pour les plus de 60 ans continueront, elles, d'être proposés. Octobre est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Maureen Bernard a 36 ans. C'est lors de son autopalpation mensuelle que la Célandaise s'est aperçue que quelque chose clochait. En mai dernier, elle a été diagnostiquée d'un cancer particulièrement agressif. Maureen Bernard revient sur sa réaction à l'annonce de la nouvelle.
Ça a été vraiment un choc. Heureusement, j'étais super bien entourée de toute ma famille et de beaucoup de proches. Mais malgré ça, on se sent très seul parce que c'est une nouvelle surprenante. On s'y attend pas du tout, surtout à cet âge-là. Et quand j'ai commencé à faire des recherches un petit peu sur Internet pour trouver des ressources pour m'entourer d'un point de vue général et pas seulement médical, j'ai été très surprise de constater qu'il y avait peu d'informations à Bienne en français.
Elle a alors eu l'idée de créer le site internet femmes-courage.ch. On y trouve notamment un annuaire régional tiré par thématiques telles que la santé mentale, l'activité sportive, la nutrition ou la beauté. Des informations utiles pour aider les femmes à reprendre confiance en elles et à retrouver le contrôle de leur santé malgré la maladie. Maureen Bernard.
Quand on commence à découvrir le monde du cancer, on découvre qu'il y a plein d'aspects qui sont importants. Que se battre contre un cancer, c'est un combat qui va changer notre vie complète. Selon le type de chimiothérapie qu'on va faire, on va potentiellement perdre nos cheveux, nos poils. Ça va avoir un impact sur notre image, notre santé mentale. La nutrition joue aussi un rôle hyper important pour pallier à certains effets secondaires qu'on peut ressentir pendant les traitements, et puis aussi pour avoir un maximum d'énergie pour renouveler nos cellules qui sont détruites par la chimiothérapie, etc. Donc pour moi, c'était essentiel d'inclure tous les aspects et tous les professionnels et les bénévoles qui peuvent nous aider dans ce combat.
Maureen Bernard, fondatrice de femmes-courage.ch, travaille actuellement sur le développement d'ateliers variés pour que les femmes puissent se rencontrer autour d'activités qui sont bénéfiques pour elles. C'est un établissement mythique de la région qui va fermer ses portes, mais momentanément. L'hôtel-restaurant Jean-Jacques Rousseau à La Neuville va connaître une profonde mue ces prochains mois, selon nos collègues du Journal du Jura. Les explications d'Olivier Zano.
Les clients du Jean-Jacques Rousseau vont trouver une porte close dès le 1er décembre et ça durera 12 mois environ. C'est le temps qu'il faudra pour amener plus de confort pour permettre à l'établissement de monter en gamme. Les travaux prévoient le remplacement de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, on dira au revoir au mazout, et puis aussi l'installation de panneaux solaires. Surtout, on passera de 24 chambres à 45, près du double donc. Et puis le restaurant, enfin, il ne sera pas agrandi, mais il élèvera le niveau lui aussi. Il est prévu de renforcer l'équipe, mais on ne sait pas encore qui se retrouvera derrière les fourneaux.
Nido présente des finances déficitaires. La commune indique aujourd'hui que le budget 2025 table sur une perte. Le trou est estimé à environ 4,93 millions de francs au compte global. Les autorités expliquent cette situation notamment en raison d'une augmentation de ses dépenses. Ce budget devra encore être présenté au conseil de ville. La foire du Jura revient en force. La 58e édition de la manifestation se tiendra du 18 au 27 octobre à la Halle des Expositions de Delémont. Horaire élargi, espace détente et un espace jeu pour les enfants font partie des nouveautés. L'espace gourmand s'est enrichi et permettra aux visiteurs de manger des spécialités suisses, corses, grecques, portugaises, italiennes ou encore asiatiques. Le nombre d'exposants a aussi augmenté, il est passé de 200 à 220. Une tente supplémentaire a du coup été installée, soit 500 mètres carrés de plus. Le président du comité d'organisation de la Foire du Jura explique cette hausse des exposants, Maciel Da Silva.
Je pense que c'est l'engouement par rapport à l'année passée. On a eu vraiment une belle manifestation. Les gens, ils ont vu qu'on a fait un effort avec le nouveau comité. Alors, on a constaté rapidement que des artisans jurassiens qui se baladaient dans les halles nous ont dit clairement, tu nous réserves une place pour l'année prochaine. Et c'est un peu cette augmentation d'exposants, c'est surtout des exposants jurassiens. On en a une vingtaine en plus. On a encore des exposants qui sont sur liste d'attente parce qu'il y a toujours un imprévu en dernière minute, un couac. On a eu par exemple un décès dans une famille d'un exposant. Ben, il a dit qu'il ne pouvait pas venir et on a pu le remplacer. Alors, c'est un plus pour nous d'avoir cette chance d'avoir déjà une liste d'attente.
Il y a plus d'exposants, une plus grande surface, ça demande également peut-être un peu plus de travail.
Oui, alors ça demande un peu plus de travail, mais on a de la chance d'avoir, entre guillemets, récupéré les mêmes collègues de travail pour le montage, donc c'est déjà plus facile pour mettre en place le travail. Mais au final, comme on voit qu'il y a de la motivation, c'est plus grand, on dirait que ça va plus facile. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est une sensation que les gens ils sont aussi motivés de mettre en œuvre cette manifestation.
Et peut-être par rapport au niveau de l'aspect sécuritaire, là aussi, il y a eu une nouveauté.
Oui, en fait, l'année passée, on avait une sécurité qui nous a plu, mais qu'on aurait pu être plus strict. Et cette année, on a quand même eu pendant quelques périodes un peu de vandalisme. Alors on a dit qu'on allait mettre à fond la sécurité en avant, parce qu'un être humain, il est important. Et on a constaté qu'avec la sécurité, qu'il y avait des petites lacunes. Alors on a mis des caméras, des détecteurs de mouvement pour la nuit. Et pour la journée, on a mis un peu plus d'agents de sécurité.
Maciel Da Silva répondait à Émilie Charmillot. La foire du Jura débute ce vendredi et se tiendra jusqu'au 27 octobre à la Halle des Expositions de Delémont. Le Parlement peut empoigner le dossier du financement de la 13e rente AVS. Le Conseil fédéral lui a transmis aujourd'hui son projet. Il prévoit un versement annuel financé uniquement par une hausse de 0,7 point de la TVA. Pour rappel, l'initiative avait été acceptée le 3 mars dernier à plus de 58%. Elle doit entrer en vigueur en 2026. Son coût est estimé à 5 milliards de francs en 2030. Le peuple se prononcera sur ce relèvement de la TVA au plus tard en septembre 2025. Les billets nominatifs dans les stades ne permettront pas de lutter contre les violences. La Swiss Football League l'a encore répété aujourd'hui à Berne devant les médias. La SFL s'oppose clairement à la volonté des autorités cantonales de réviser le concordat sur le hooliganisme justement pour pouvoir y introduire ces billets nominatifs. La Swiss Football League pense que le dialogue, les alliances entre les clubs et une bonne prise en charge des visiteurs sont les meilleures solutions. Le club d'Yverdon Sport a d'ailleurs été cité en exemple lors de son passage en Super League. Il a voulu soigner l'accueil des ultras en provenance de l'extérieur. Les précisions de Billy Vapperlin, le responsable de la sécurité à Yverdon Sport.
On invisibilise les forces de sécurité privées et de police parce que ça reste des invités. On ne les accueille pas de cette manière-là. Si en sortant du train, les supporters voient des policiers anti-émeute, on n'est plus dans le mode invitation, on est dans le mode de la confrontation en fait. Et ensuite, c'est de faire en sorte que leur secteur soit le plus adéquat possible par rapport aux couleurs de leur club, les maillots aux buvettes, alors c'est un symbole, la bâche d'accueil, mais aussi le fait qu'ils ne soient pas entourés de sécurité. Ils sont déjà derrière des grilles. On parle toujours du zoo de Bâle où le lion est sur un caillou derrière une simple barrière et nous on met des humains derrière des grilles pour un match de foot.
On a un peu l'impression que vous déroulez le tapis rouge à ces ultras parce que vous avez peur qu'il y ait des débordements.
Ce sera l'argument facile de dire qu'on fait le jeu des ultras. Oui, on fait le jeu des ultras si on est toujours parti du principe que quand ils arrivent, il faut montrer la répression. Là, c'est une autre voie qui est utilisée. Les ultras restent des personnes avec qui on peut discuter. Et si ceux qui nous disent qu'on fait leur jeu peuvent me dire le nombre de fois qu'ils ont discuté avec eux, là, on pourra argumenter. Mais l'objectif commun de tout le monde, que ce soit la SFL, police, les clubs, c'est que le match se passe bien. Comment on y arrive, ce n'est pas important du moment que cet objectif-là est garanti.
Des propos recueillis par Marie Vieumier. La Swiss Football League espère renouer le dialogue avec les cantons, mais refuse de le faire sous conditions. Et à l'étranger, au moins 5 personnes ont été tuées aujourd'hui dans des frappes israéliennes menées au sud du Liban. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé et la gouverneure locale. Les tirs ont visé 2 bâtiments. Ces décès portent à 1356 le nombre total de morts au Liban depuis le début de la guerre entre le Hezbollah et Israël le 23 septembre.
Il est 18h14.
Sport.
Stan Wawrinka continue sa route au tournoi en intérieur de Stockholm. Le joueur de tennis vaudois a battu l'Américain Brandon Nakashima en 2 manches, 6-4, 6-4 aujourd'hui. Il s'est qualifié pour le 2e tour. Prochain adversaire pour Stan Wawrinka, l'Espagnol Alejandro Davidovic Fokina. Et autre nouvelle réjouissante pour le tennis suisse, Belinda Bencic fera son retour à Hambourg à la fin du mois. 6 mois après la naissance de sa fille et un peu plus d'un an après son dernier match en simple, la Saint-Galloise a reçu une invitation pour le tournoi allemand du circuit ITF. Belinda Bencic jouera ensuite la Billie Jean King Cup avec la Suisse qui affrontera la Serbie le mois prochain à Bienne. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à l'antenne avec l'actualité, c'est dans le flash de 18h30. Très belle soirée.